Voilà. Enregistré et envoyé au Vatican. Bon, voilà, c'est fait. Donc, éthique de l'autonomie qu'on appelle également les éthiques de la responsabilité. Hein, l'autre mot qui est utilisé tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce sont les éthiques de la responsabilité. Hein, l'individu autonome, moderne ou postmoderne, d'ailleurs depuis le temps qu'on nous parle de postmodernité, je ne l'ai toujours pas vu, mais enfin, modernité ou postmoderne, libéral, est un individu qui est responsable. Au sens, être responsable, c'est pouvoir répondre d'une situation. L'éthique de la responsabilité, c'est l'éthique qui permet, de façon autonome, à l'individu, hein, ou au sujet, hein, dans la philosophie contemporaine, on parle beaucoup du sujet, hein, de décider en conscience. Bon, l'éthique de la responsabilité, elle est dans le monde du travail, dans le monde de la politique. L'éthique de la responsabilité, on peut en donner des millions d'exemples. Hein. Le principe de précaution. Principe de précaution inscrit dans la Constitution par Jacques Chirac, c'est déjà presque une caricature de l'éthique de la responsabilité. Non seulement on a une responsabilité, mais on anticipe sur la responsabilité par précaution. L'éthique de la responsabilité, malheureusement, dans sa caricature, c'est ce qui fait que on demande à quelqu'un qui est juste accusé, voyez Damien Abad par exemple, hein, qui est juste accusé de déjà démissionner, parce que le gouvernement est responsable de l'avoir nommé alors qu'il aurait dû savoir, parce que lui-même n'aurait jamais dû accepter, etc. Et parce qu'avant même que la justice se prononce, le gars est toujours déjà responsable. Devant les citoyens, donc il doit toujours déjà dégager de sa charge, en fait, qu'il a à peine commencé à exercer. Et on sait, on sait, on, bon. Donc l'éthique de responsabilité, elle est présente partout. Hein? Là, je vous ai donné des dévoiements, à mon avis, de l'éthique de la responsabilité, hein, y compris dans le judiciaire, mais au bon sens du terme, l'éthique de la responsabilité, c'est ce qui fait, je reprends des exemples que je connais mieux en ce moment, du monde de la santé, c'est ce qui fait que, par exemple, une équipe de santé à l'hôpital choisit, hein, de manière collégiale, quand c'est possible, de manière collégiale, un traitement, je vais donner cet exemple-là, un traitement onéreux, par exemple, hein, qui va permettre de soigner un patient plutôt qu'un autre. Hein? Et donc la responsabilité, bah, comme on est responsable et qu'on est même de plus en plus responsable devant monsieur le juge, hein, eh bien, on dit pour l'éthique de la responsabilité qu'elle doit être la plus collégiale possible, que les décisions doivent être, quand c'est possible, ne doivent pas être prises par un seul individu, mais en pratiquant une éthique délibérative, hein, une éthique de la discussion, pour arriver à une vraie décision collégiale, hein, qui est obtenue soit par le compromis, soit par le consensus. Les grandes déclinaisons contemporaines de l'éthique de la responsabilité, c'est le compromis et le consensus. Pas tout à fait la même chose, hein. Quand vous décidez en faisant un compromis, ou quand vous décidez en cherchant pas seulement un compromis, mais un consensus. Alors vous pouvez, mais vous voyez, dans les deux cas, il s'agit bien d'évaluer la fin de l'action, le but. Le but, c'est d'arriver à un compromis. Si vous arrivez à un compromis, la décision, elle est éthique. Ou si vous arrivez à un consensus, qui est encore peut-être plus difficile, hein, plus engageant, hein, eh bien, la décision, elle est éthique. C'est le fonctionnement les comités d'éthique un peu partout fonctionnent avec l'éthique de la responsabilité. Et voyez, voilà. Donc ça, c'est nous sommes immergés dans ce monde-là auquel nous participons au titre, comme chrétiens, de la construction du bien commun et de notre contribution à la cité des hommes. Ça n'est pas sans difficulté, hein, puisque vous sentez bien qu'il y a des sujets sur lesquels l'Église catholique est mal vue parce qu'elle est en tension avec le monde dans lequel, la société dans laquelle nous vivons et qui sont des sociétés, encore une fois, démocratique et sécularisée. Les questions de bioéthique, par exemple, hein, vous le sentez bien, sont des questions qui, en général, nous situe en tension vis-à-vis de, et je dirais du coup tout à l'heure pourquoi, mais en tension vis-à-vis des responsables politiques, hein, souvent, ça dépend des gouvernements, mais et même en tension vis-à-vis de la société, et la société, ça commence avec mon prochain, hein, de mon voisin de palier, et parfois ces tensions traversent même les familles. Hein. Bon, c'est comme ça, hein, mais ça n'est pas sans tension, ni même sans... même des pays, plus aux États-Unis, mais la question se pose en France aussi, où on pratique, il est même encouragé, si vous voulez, de pratiquer l'objection de conscience. Objection de conscience. Vous voyez, madame, comment s'appelle-t-elle, Pelosi, hein, donc celle qui dirige la Chambre aux États-Unis, hein, qui s'est prononcée pour le maintien de la loi sur l'avortement aux États-Unis et qui a été excommuniée, enfin non pas excommuniée, elle a été, c'est pas loin remarqué, hein, elle a été interdite d'accès à l'Eucharistie par l'archevêque de San Francisco, je crois, qui est bien connu d'ailleurs pour excommunier à tour de bras. Donc c'est tombé sur elle, mais il y en aura d'autres. Hein. Aux États-Unis, vous savez, les évêques américains, le pape les a tensés là-dessus, mais certains évêques américains sont prêts à refuser l'Eucharistie à tous les catholiques qui pratiquent l'objection de conscience, objection de conscience, à raison, si je puis dire, à raison de leur foi, de leur conviction. Donc là, c'est qui s'oppose aux éthiques séculières de la responsabilité. Ça, c'est le... Alors, j'ai décrit le... Surtout, là, j'ai mis mon tout focus sur donc, le premier bloc, le premier système qu'on appelle les éthiques de l'autonomie ou les éthiques de la responsabilité. Hein. Et je vous ai dit, j'ai commencé à vous sentez bien, le contrepoint, hein, le contrepoint, effectivement, c'est nous, puisque les autres éthiques, comme les nôtres, hein, qui s'opposent ou qui sont en tension, qui ne s'opposent pas toujours, mais qui sont en tension avec les éthiques de la responsabilité autonome, ce sont les éthiques dites hétéronomes. Alors, hétéronome, faire le même travail, hein, hétéronomos, donc nomos, toujours la loi, et hétéros, différent. Différent ou autre, hein, hétérosexualité, sexe différent. Voilà. Donc, hétéronomos, ça veut dire que vous n'êtes pas vous-même votre propre loi. Mais au bout du compte, la raison qui vous fait décider en conscience, ce n'est pas vous, c'est hétéros. Alors, il peut y avoir plusieurs hétéros, si je puis dire. Hein. Donc, pour nous, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ tel que nous le recevons dans la Sainte Église catholique, c'est-à-dire avec... l'écriture, la tradition, le magistère qui interprète l'écriture authentiquement, d'accord. Et donc nous, c'est notre hétéronomie à nous, c'est le Dieu de Jésus-Christ tel que nous, tel que le dépôt de la foi, comme on dit, pour prendre cette expression que j'aime pas, catholique, le transmet. Donc nous sommes, et ce serait vrai d'ailleurs pour les autres grandes religions du livre, hein, c'est-à-dire les autres grandes traditions religieuses du monde, l'islam, le judaïsme, c'est un peu plus compliqué pour les religions d'Extrême-Orient, qui ne sont pas tout à fait des religions d'ailleurs, mais enfin, bon, quand même, il me semble que l'on pourrait aussi, hein, elles sont, ces religions sont, ou ces spiritualités sont témoins d'une hétéronomie, c'est-à-dire qu'en dernier lieu, ce qui est la source et la fin, ce qui est l'alpha et l'oméga de la décision morale, ça n'est pas moi, ça n'est pas le sujet, ça n'est pas l'individu moderne, c'est Dieu. Alors c'est Allah, c'est le Dieu un et trine pour nous, c'est le tétragramme sacré, c'est l'éternel Adonai pour les Juifs. C'est, après ce que vous voulez, on peut être polythéiste, on peut être... ce sont des traditions hétéronomes. Et ces traditions hétéronomes viennent en tension avec les éthiques de l'autonomie, où là, c'est le sujet qui est à lui-même l'alpha et l'oméga d'une décision. Vous voyez? Ça, c'est la très grande tension contemporaine qu'il ne faut pas forcer, hein, puisque on peut être soi-même, et c'est, je dirais, logique, hein, traversé par des courants autonomes où on a envie de décider par soi-même, hein, et ou par des courants hétéronomes où, à certains moments, pour certaines décisions de notre vie, ça n'est pas nous qui décidons, enfin, c'est pas nous qui nous décidons de nous en remettre. Par exemple, lorsque nous obéissons à une décision du pape, du magistère, eh bien, c'est nous décidons. Vous savez, les catholiques parfois choisissent d'obéir, quelle que soit la rigueur de la décision du pape, par exemple. Je pense à les humanévité, etc. Ou bien d'autres catholiques ont décidé de s'affranchir en conscience des décisions du magistère. Donc on peut tout à fait être traversé soi-même par, ou être soi-même, de temps en temps, nous sommes un moraliste autonome et on est un peu kantien, ou post-kantien. Et de temps en temps, on est au contraire parfaitement hétéronome et nous sommes témoins et acteurs de la grande tradition métaphysique que nous héritons depuis Jésus-Christ, même avant Jésus-Christ, hein. Voilà, depuis la révélation, hein, depuis les premiers moments de la révélation. Voilà, on pourrait le dire avec les mots de saint Augustin, hein, que j'ai évoqués tout à l'heure, la cité de Dieu est la cité des hommes. Du point de vue de la cité de Dieu, nous sommes hétéronomes. Du point de vue de la cité des hommes, nous sommes autonomes. Et il ne peut pas en être autrement, dans la mesure où, je citais cet exemple ce matin, en 2022, finalement, nous revivons ce que les premiers chrétiens, et ce que les chrétiens n'ont jamais cessé de vivre, mais ce que les premiers chrétiens déjà vivaient, dans un texte très très célèbre, que Benoît XVI aimait bien citer, qui est un texte du 1er siècle après Jésus-Christ, qui s'appelle la lettre à Diognet, D-I-O-G-N-E accent T-E, lettre à Diognet, D-I-O-G-N-E accent T-E. Je suis sûr que vous la trouvez en tapant sur Internet. C'est une lettre brève, c'est un recto verso, hein, c'est pas long du tout. Et l'auteur de la lettre, qui est, si je me souviens bien, anonyme, l'auteur de la lettre décrit ce qui, à ses yeux, est la tension, la tension du chrétien dans le monde, c'est-à-dire vivant dans le monde sans être du monde. Hein. Et alors, c'est une très belle lettre, hein, qui est tout à fait frappante d'actualité, où l'auteur... décrit les mœurs du chrétien tel qu'il s'inscrit dans le monde, mais tel qu'il n'est pas du monde. Il parle du vêtement, par exemple. Il parle de, voilà, si vous vous comportez comme chrétien, vous allez agir comme ça. Mais en même temps, comme vous êtes membre de la cité des hommes, vous allez vous comporter comme ça. C'est un très beau texte. Les chrétiens ne se distinguent, dit l'auteur, en rien par rapport aux hommes. Les chrétiens ne se distinguent en rien par rapport aux hommes. Puis après, il explique, s'il faut vraiment qu'ils se distinguent, comment et pourquoi ils vont se distinguer. Vous voyez ? Et donc, en fait, nous sommes aujourd'hui, en 2022, et ça va durer comme ça, figurez-vous, jusqu'à la parousie, nous sommes, c'est la question des deux cités, hein, qu'on retrouve traditionnellement dans la théologie, les deux cités, hein, nous sommes à la fois de la cité de Dieu et de la cité des hommes. Nous sommes donc, et donc la cité des hommes, aujourd'hui, elle est hyper sécularisée. Chez nous, hein, en Russie, vous sentez bien que ce n'est pas ça. Au Moyen-Orient, ce n'est pas ça. Mais pour les démocraties européennes pluralistes, nous vivons dans un contexte éthique notamment hyper sécularisé, témoin et acteur d'une autonomie vécue jusqu'au bout des ongles. Je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure, à mon avis, des dévoiements. Pour moi, le principe de précaution était déjà, vous voyez, je suis un peu dur, un dévoiement du principe de responsabilité. La responsabilité est devenue la précaution. La prudence est devenue la précaution. Du coup, on ne prend plus aucun risque. Mais il faut aussi dire que l'éthique de responsabilité, bah, c'est ce qui nous permet, encore une fois, de nous reconnaître comme des individus libres et égaux les uns devant les autres. Donc on en est aussi très très content. Mais nous marchons, si vous voulez, sur deux jambes entre autonomie et hétéronomie. D'ailleurs, j'ai parlé de responsabilité, j'ai dit que le synonyme de l'autonomie, en gros, c'est la responsabilité. Mais de même, du côté de l'hétéronomie, le synonyme de l'hétéronomie, ou plutôt la conséquence de l'hétéronomie, c'est ce qu'on appelle la conviction. C'est-à-dire que les éthiques hétéronomes, ce sont des éthiques de la conviction. Je prends un exemple qui nous a occupés suffisamment il y a quelques années. La manif pour tous, c'était une éthique de la conviction. Les catholiques qui ont manifesté à ce moment-là étaient convaincus, au nom de leur religion, que le mariage pour tous n'était pas possible. Hein? Et j'allais dire, armés de leur conviction, ils ont affronté la responsabilité et l'autonomie d'une France laïque qui décide au vote démocratique où une voix est une voix, pas plus. Et effectivement, le Parlement a voté. Donc vous avez là. Mais les questions de bioéthique, hein, quand l'Église catholique refuse, par exemple, l'euthanasie par injection létale, l'euthanasie directe par injection létale, ou quand elle a de très très grandes réserves sur le clonage, ou sur l'avortement, etc., c'est vraiment l'éthique de conviction. Et quelle est la conviction? La conviction, c'est que notre vie ne nous appartient pas, parce qu'elle vient de Dieu et elle retourne à Dieu. Donc au nom de cette conviction, hétéronome, puisque le voilà Dieu, notre vie vient de Dieu, il est le maître de la vie et de la mort. Donc on ne peut pas agir au début de la vie ni à la fin de la vie par une introduction excessive de la technique, si vous voulez. Hein. Bon, ça c'est l'éthique de conviction. Et elle s'oppose à l'éthique de responsabilité, où là, le législateur, après avoir entendu les religieux au Parlement, les religieux d'ailleurs comme tout le monde, les athées, etc., les sociologues, les machins, voilà, le législateur va décider en responsabilité, tiens, c'est Monsieur Castex, bonjour, hein, donc va en responsabilité de voter pour le mariage pour tous, au nom d'un principe républicain qui était un principe d'égalité. Mais voyez que le principe, si on reprend l'argument du mariage pour tous, et le principe était l'égalité, qui est dans la devise républicaine, et donc collégialement et en responsabilité, le pays a voté, enfin nos responsables, nos députés ont voté pour, mais vous sentez bien que cette valeur républicaine de l'égalité ou de la fraternité, hein, puisqu'il s'agit d'être frère devant le même mariage, pour la République c'était ça, hein, est irrecevable dans la tradition catholique qui ne connaît pas le mariage entre personnes de même sexe. Donc d'un côté, vous aviez une éthique de conviction, de l'autre, une éthique de responsabilité. Hein, vous voyez bien que l'éthique de responsabilité, elle est séculière. Elle est complètement sécularisée. Hein. Si on reprend le débat du mariage pour tous, rappelez-vous les arguments. Si on accorde le mariage pour tous, on ne retire rien aux catholiques qui n'en veulent pas. On ne leur retire rien, disait-on. Mais on ouvre, la République ouvre au nom de l'égalité ce type de mariage. Les catholiques, vous faites bien ce que vous voulez, mais nous, on vous prive de rien et vous laissez la République, si j'ose dire, voter pour ceux qui demandent le mariage entre personnes de même sexe. Vous voyez bien que c'était un argument d'une très grande sécularité ou sécularisation, d'une très grande autonomie hein, par rapport aux traditions religieuses. Cet argument s'est affronté brutalement, totalement, aux catholiques qui étaient avant tout enracinés sur la tradition selon laquelle seul un homme et une femme peuvent se marier. Alors le problème, c'est se marier à l'église d'un côté et se marier chez monsieur le maire de l'autre. Hein. Mais ce que les catholiques voulaient dire, ce que des catholiques voulaient dire à ce moment-là, c'est que on ne peut pas, comment dirais-je, enfin, c'est qui, vous voyez le raisonnement. Puis après, il y a toutes les arguties du raisonnement, et je ne vous dirai pas ce que j'en pense, mais c'était des catholiques qui. Mais voilà, cette éthique de conviction, elle a rempli la rue quand même, hein, rappelez-vous, et ça avait surpris tout le monde. Vous voyez ? Donc, les chrétiens, au contraire, le terrorisme islamiste en France l'attentat du Bataclan est un grand principe d'éthique de responsabilité. Tout le monde est descendu dans la rue, croyant ou pas. Enfin, tout le monde, pardonnez-moi, disons beaucoup de gens, parce que je ne connais pas vos convictions, mais des gens sont dans la rue. Et c'était une éthique de responsabilité collégiale, croyant ou pas, et même des gens de différentes religions. Ça, c'était une éthique de la responsabilité. Vous voyez Je force le trait, hein, parce qu'on ne peut pas dire simplement que d'un côté, les éthiques de la responsabilité, ben, c'est des affreux sécularisés, si j'ose dire, et que nous sommes des religieux qui n'agissons que par nos convictions. Parce que heureusement qu'on peut être des gens responsables aussi, et heureusement que les éthiques de responsabilité peuvent aussi tout à fait entendre certains arguments religieux. Hein, moi, par exemple, si on prend l'avortement, hein, sujet hautement polémique, j'ai des gens autour de moi qui ne sont pas spécialement religieux et qui développent un argumentaire contre l'avortement au nom du principe de respect de la vie, finalement, hein, mais de la vie du bios, de la vie biologique, de la vie de l'enfant à naître, et qui disent « j'ai pas besoin d'être religieux pour être contre l'avortement, je trouve que humainement, c'est pas bien ».
Est-ce que l'éthique de conviction, elle ne peut pas être aussi républicaine, entre guillemets ? Est-ce que ce n'est pas l'éthique, collective par rapport à l'éthique individualiste ?
Si, aussi, on peut tout à fait organiser le débat autour de ça, hein, de même que l'éthique, oui, on peut tout à fait le dire. On peut donner des exemples tout à fait dans ce sens. Hein. L'éthique de conviction, par exemple, l'éthique, on a beaucoup dit que si Emmanuel Macron a été réélu, c'est parce que la majorité des électeurs donc a préféré c'est un bon exemple, a préféré voter pour lui plutôt que préférer voter pour lui parce que on a mesuré les gens qui ont voté pour lui, les conséquences du vote. Mmh. Bon, et les conséquences du vote pour Emmanuel Macron ont été estimées, à en croire le résultat des urnes, supérieures aux inconvénients de sa réélection. Et il nous a été beaucoup dit, moi je ne fais qu'être factuel, je ne situe pas, que c'était pour faire barrage à l'extrême droite. Mmh. Le fait de faire barrage à l'extrême droite ou aux extrêmes, c'est quoi ? C'est une conviction, ou c'est une responsabilité ?
Ben, c'est un peu responsabilité.
Oui, c'est une responsabilité. Je pense aussi que sur le fond, c'est d'abord une responsabilité. Mais c'est une responsabilité qui exprime aussi la conviction, hein, que, comme le disait Churchill, la démocratie, c'est le moins mauvais de tous les systèmes. Et que, finalement, la... mieux vaut les défauts de la démocratie que les périls de ce qu'on appelle pudiquement le souverainisme. Bon. Voilà, mais il y a effectivement, la responsabilité n'exempte pas de conviction, pas plus que la conviction est forcément irresponsable. Mais la conviction peut être irresponsable. Parce que vous pouvez agir sous l'empire de convictions irrationnelles. Et monsieur le juge, par exemple, ou le docteur un tel psychiatre, vous déclarera irresponsable, parce que vous ferez un délire de conviction. La conviction peut être parfaitement irrationnelle. La conviction qui a poussé à l'attentat du Bataclan, c'est une conviction irresponsable et donc irrationnelle. La question est de savoir comment les juges vont, puisque le procès est en cours, vont évaluer ça. À l'hôpital, on voit bien ça, à Hervé, hein, le délire de conviction. Hein. Le délire de conviction, il est souvent religieux, il a souvent des aspects religieux, il est évidemment complètement irrationnel, mais, il faut entendre ça, celui qui agit sous l'empire d'un délire de conviction, il est persuadé du vrai, il a la vérité. Et donc, il a une conception totalement irrationnelle de la vérité. C'est une question fondamentale, ça, parce que est-ce que la vérité émerge d'un individu délirant qui est appuyé sur sa conviction, fût-elle religieuse, ou est-ce que la vérité émerge du consensus ou du compromis de l'éthique de la responsabilité? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si on reprend l'exemple du comité d'éthique, est-ce qu'on peut considérer que la fin de la délibération du comité d'éthique, qui décide par exemple d'un traitement pour un patient, que cette décision collégiale, peut-on dire qu'elle est vraie? Parce qu'elle a été décidée par plusieurs, en respectant les processus. Pas sûr. Ça dépend quelle conception de la vérité vous avez. Mais là, je suis en train de définir une éthique dont le nom ne vous surprendra pas. Je suis en train de définir un type d'éthique qui s'appelle le pragmatisme. Le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est cette décision sera pragmatiquement vraie parce qu'elle est collégiale et parce que finalement on va s'apercevoir que le traitement va bénéficier à ce malade qui sera même guéri. Et il sera guéri parce qu'il aura bénéficié du traitement qu'on aura décidé collégialement. Donc l'effet, c'est la guérison. Donc si la guérison est obtenue, on ne peut pas dire que qu'on n'était pas dans la vérité, mais c'est une conception pragmatique de la vérité. Et la conception pragmatique de la vérité, elle n'est pas tout à fait conforme, il faut le dire, à notre tradition à nous, chrétienne, qui n'est pas d'abord pragmatique, qui est quand même héritière, lointain héritier de notre tradition, c'est quand même Aristote. Hein. C'est... à savoir, la vérité je suis obligé de le dire. Aristote, c'est une conception ontologique de la vérité, ontologie, hein, donc au sens de la philosophie de l'être. Bon, la tradition chrétienne hérite de ça, mais elle hérite pas, elle n'est pas. En ce sens, si vous voulez, c'est pas facile, hein, c'est pas forcément facile pour un religieux, quelle que soit sa religion, de participer à un comité d'éthique, parce qu'il peut très bien se dire que la conception pragmatique de la vérité l'éloigne de ses convictions, mais que en responsabilité, il va consentir au pragmatisme collégial. Vous voyez, Bon, c'est des questions compliquées parce que c'est des questions aussi qui mêlent des approches très différentes philosophiques de la vérité, hein. Donc c'est on est là sur hein,
C'est le problème de savoir s'il faut mieux être dans la décision ou hors la décision. Est-ce qu'on n'est pas plus efficace en étant dans la décision? C'est
ça
vrai,
dépend
de
des
la participation à beaucoup de décisions, on mutualise à partir du moment où la décision est mutualisée, on l'infléchit en participant. Donc là aussi, il y a une question de responsabilité. En restant en dehors, on se lave les mains, entre guillemets, d'une décision, en quelque sorte.
Oui, et
Ça, c'est compliqué.
en participant, on accepte de mettre les mains dans le cambouis, hein.
Voilà.
C'est évident. Ce sont des attitudes éthiques très différentes, mais qui ne sont pas à juger parce qu'on peut très bien comprendre que dans certaines situations, on préfère rester en dehors, hein, c'est une décision, hein, de ne pas décider, ou c'est une décision de décider de rester en dehors du cercle de la décision, et c'en est une autre de participer.
C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui commencent, qui participent et qui démissionnent.
Oui, ben oui.
Parce qu'il y a un moment où la participation devient complicité ou intolérable.
Oui.
Et ce qui est
Alors,
bon.
c'est la différence entre le compromis et la compromission, hein, qui est une marge qui est parfois un peu ténue. Alors, il est 21 h, je vous propose de faire une pause. Donc, vous pouvez éteindre vos micros, supprimer le visuel si vous voulez. On se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. Bien. On va reprendre doucement pour ceux qui sont toujours sur nos ondes. Bon, ça va jusqu'à présent. Alors, on pourrait multiplier les exemples, hein. Bien évidemment, cette tension entre éthique de la responsabilité et éthique de la conviction vaut pour les petites, les moyennes et les grandes décisions. C'est pas du tout réservé à au mariage pour tous ou à des débats comme ça emblématiques, hein, c'est du quotidien. Alors, je voulais au moins commencer ce que je terminerai la prochaine fois, c'est-à-dire la première heure de notre dernière séance, avant les questions ouvertes, hein, à savoir vous parler de la question de la nature, parce que, et plus spécifiquement de la loi naturelle, parce que c'est une question clé qui commande à peu près, c'est le principe organisateur, si vous voulez, de l'ensemble de la morale, pas seulement la morale fondamentale, hein, mais de la morale sexuelle, conjugale, relationnelle, appelez-la comme vous voulez, familiale, de l'Église catholique. Le parcours historique qu'on a fait ensemble vous a permis de découvrir aussi bien les vertus, la conscience, la loi. Là, on va sur un point qui est un point particulier, mais qui est un point, encore une fois, c'est une clé de voûte, enfin, c'est un principe organisateur, ça s'appelle la loi naturelle. Donc, vous sentez bien que ça a affaire à la nature, mais pas n'importe comment. Alors, je précise d'emblée que la loi naturelle est un concept intra-catholique, finalement. C'est-à-dire, ça n'existe pas comme tel. Ça existe quand même, hein, mais sous d'autres formes. Enfin, ça n'existe pas comme tel chez les protestants et non plus chez les orthodoxes. Alors, il faudrait beaucoup nuancer parce que on en trouve quand même des expressions, des traces, mais exprimé comme je vais l'exprimer, c'est un principe intra-catholique et qui est structurant pour nous et qu'il est beaucoup moins dans les éthiques protestantes, notamment les éthiques issues des vieilles églises protestantes réformées ou enfin, luthériennes ou calvinistes, si vous voulez, hein, mais chez les catholiques, c'est très important. Je dis ça parce que ça vous permet de comprendre aussi que sur les questions de bioéthique, par exemple, nos frères protestants n'auront pas forcément les mêmes options que nous. Alors, la loi naturelle, c'est quoi? Alors déjà, ce n'est pas si facile que ça à définir, mais l'expression la plus ancienne de la loi naturelle, on peut considérer qu'on la trouve exprimée dans la Bible, qu'on la trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et plus précisément dans le Deutéronome avec les 10 commandements. Les 10 commandements sont une expression éminente de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la loi naturelle, Et alors, j'en veux pour preuve, sans passer en la liste des 10 commandements, mais si vous vous souvenez des 10 commandements, hein, tu ne feras pas, tu feras ou tu ne feras pas, il y a des commandements positifs et des commandements négatifs, des interdits ou bien des choses à faire et à ne pas faire. Et des commandements qui relèvent de Dieu, hein, tu sanctifieras le jour du sabbat. Et il y a des commandements qui relèvent de la vie concrète, la vie éthique, hein, de tous les jours. Tu ne mentiras pas. Mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vous pouvez traduire ou retraduire les 10 commandements en y introduisant la notion de nature ou de naturel. Qu'est-ce que la loi naturelle? Eh ben, reprenez les 10 commandements et vous traduisez comme ça: il est naturel de ne pas mentir. Il est naturel de ne pas tuer. Il est naturel de ne pas convoiter la femme de son voisin. Il est naturel d'honorer ses parents. Il est naturel d'honorer le jour du Seigneur. Donc, les 10 commandements définissent ce qu'il est naturel de faire. Et vous sentez bien que sous l'expression nature ou naturel, il s'agit bien de définir qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est conforme à la nature. C'est ce qu'on fait toujours et partout, quel que soit le contexte, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les conséquences de notre action. Il est toujours naturel de ne pas tuer son prochain. Ce ne serait pas conforme à la nature, il n'est pas conforme à la nature de mentir. Oui, alors, je pose les choses, après on va introduire les nuances. Mais ce que cherche à faire le décalogue, et puis je vous l'ai dit, c'est le catéchisme et l'Église catholique, encore aujourd'hui, c'est un commentaire du décalogue, hein, la partie morale du catéchisme est un commentaire des 10 commandements. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est, ce n'est pas autrefois, c'est encore structurant de la morale chrétienne. Bien, il est naturel de. Donc, ce qui est naturel, en fait, c'est ce qui est universalisable. Hein? La nature, essayer de définir la nature de l'homme, c'est essayer de définir ce qui va être vrai. Donc, c'est la recherche de l'universalisation du vrai. C'est ça le défi. C'est un petit peu ce que le décalogue cherche à faire. Alors, premier paradoxe. Le décalogue représente, il est très connu, c'est un texte très connu par les chrétiens, par les juifs, et au-delà des chrétiens et des juifs, parfois au-delà des croyants. Dit à les 10 commandements, c'est presque devenu une expression du langage commun. Enfin, vous remarquez aujourd'hui le langage commun. Enfin, ce n'est pas les 10 commandements, dit-on. Hein, ça ne représente pas les 10 commandements. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que ce texte du Décalogue dans le Deutéronome représente un des sommets de la révélation judéo-chrétienne. Donc, c'est un texte phare pour nous. Et en ce sens, c'est un texte qui est particulièrement religieux, puisqu'il est un des sommets, c'est l'acmé, enfin, de la révélation, la Torah, enfin, et pour nous, le Premier Testament, voilà, c'est éminemment religieux, ça fait vraiment partie du cœur de la révélation. Et pourtant, les exégètes nous disent, les biblistes nous disent que des textes comme ça, il y en a ailleurs que dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, il y a des codes, il y a eu des codes qui ont précédé la rédaction du Décalogue. Hein, le Décalogue est un texte, si vous voulez, qui est traversé, structuré par des traditions extra-bibliques. Donc des traditions pas spécialement révélées, si vous voulez. Mais il se trouve que ce texte-là a été enchâssé, on pourrait dire, enchâssé dans la Bible et est devenu un des sommets de la révélation biblique. Mais il nous vient d'ailleurs. Ça qui est très intéressant, c'est qu'il est au cœur de la révélation, mais il exprime plus ou autre chose que la révélation. Parce qu'on trouve des codes similaires dans d'autres cultures extra-bibliques, hein, définissant. Et donc, c'est d'autant plus intéressant parce que cela manifeste bien une recherche de l'universel. Hein. C'est-à-dire les commandements, l'éthique que tout homme de bien doit pouvoir accomplir. Vous voyez, on est à la fois au cœur de la révélation et en dehors de la révélation avec le décalogue. C'est tout le paradoxe de la loi naturelle. Ensuite, deuxième paradoxe, les dix commandements mêlent des considérations religieuses et des considérations pas religieuses du tout. C'est-à-dire, est-ce qu'il est naturel d'honorer le Seigneur? Ben, pour les croyants, oui. Mais les incroyants aujourd'hui vont vous dire, mais... Non, ce n'est pas naturel, c'est votre culture, c'est votre foi, c'est vos traditions, mais ce n'est pas naturel du tout. Oui, mais c'est dans le décalogue quand même. Et dans le décalogue, dans d'autres commandements, on vous dira, il est naturel de ne pas tuer. Ah ben ça, on espère. On n'en est pas sûr, remarquez, hein, mais on espère. C'est-à-dire qu'on espère qu'il n'a pas besoin d'être croyant pour ne pas avoir envie de trucider son prochain.
Et que dire de quoi? Exploiter la femme du voisin.
Oui, je m'abstiendrai de tout commentaire. C'est quand même, vous voyez, il y a une espèce de méli-mélo, si j'ose dire, pour les dix commandements, de commandements qui concernent des réalités tantôt croyantes, tantôt effectivement communes à tout le monde, donc universalisables. On ne peut pas universaliser le fait d'honorer le nom de Dieu, si on ne croit pas en Dieu. Ensuite, troisième paradoxe, est-ce que les commandements, les dix commandements, sont si naturels que ça? C'est-à-dire, est-ce que l'idée de nature. Alors là, je le dis avec. Parce que vous comprenez bien que le concept de loi naturelle, qui est un concept qui s'enracine notamment dans les dix commandements, hein, dont on trouve une expression imminente, si vous voulez, dans les dix commandements, fonde ce concept, est fondateur de la loi naturelle. Bon, très bien. Ceci jusqu'à, en gros, l'avènement des sciences humaines, sociales et historiques. Sociologie, anthropologie, psychologie, tout ce que vous voulez, qui nous disent quoi? Qui nous disent que l'idée de nature est une production de la culture. Donc, quand on pense que quelque chose est naturel, ça s'est toujours fait, quel que soit le contexte, quel que soit... eh bien, on se rend compte, parfois, que ce qu'on pensait être naturel, c'est-à-dire valable tout le temps, en quelque sorte, est une production de la culture ou d'une culture donnée, dans un contexte donné. Je prends un exemple, hein. Mesdames, hein, y a pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'il est naturel pour... J'espère que non. J'espère que la soumission de la femme à l'homme est une question de culture. Parce que si ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas réformable. Si c'est une question de culture, on peut la réinterpréter. On peut la réinterpréter au sens où aujourd'hui, nos mœurs, c'est-à-dire les relations entre l'homme et la femme, ont changé et où il n'est plus question de soumission. Mais si vous naturalisez l'idée de soumission, vous ne touchez plus à rien et vous dites « c'est naturel ». Regardez l'exemple d'actualité, le burkini. Est-ce qu'il est naturel que pour les femmes de se voiler, de se voiler, alors pas seulement à la piscine, mais pensez à saint Paul. Il est naturel pour les femmes de se voiler dans les assemblées chrétiennes. Or, le vêtement est une production culturelle. Ce n'est pas si naturel que ça. Il est naturel ou culturel pour les femmes encore aujourd'hui qui rendent visite au Saint-Père, au Vatican, la femme d'un ambassadeur, une ambassadrice, une chef d'État, une première ministre, porte toujours le voile devant le pape. C'est une tradition avec un petit t. Ce n'est pas la tradition avec un grand T, c'est une tradition. Pas la tradition. Autrement dit, la loi naturelle qui représente normalement, je dirais, on va donner un synonyme, les invariants de la condition humaine. Ce qu'on ne change jamais. Les fondamentaux de la condition humaine. Pour prendre un vocabulaire hyper contemporain et extra-religieux, la loi naturelle, si vous voulez, c'est l'humanité de l'homme. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui appartient en propre à la définition de notre espèce et qui n'appartient qu'à nous, qui fait que nous sommes des êtres humains, pardon, et pas des animaux. Enfin, c'est très contesté, ça, aujourd'hui, hein, mais ce qui fait l'essence, comme on aurait dit autrefois, enfin, de l'identité irréductible de la personne humaine. Eh bien, c'est ce que la loi naturelle essaye d'exprimer. Mais ça, d'exprimer et d'universaliser, ça c'est une chose. La question du voile dans les assemblées pour les femmes ou la question de la soumission de la femme à l'homme, normalement ça fait aussi partie de la loi naturelle. Selon, c'est une expression de Saint Paul, hein, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais si c'est une expression culturelle, alors on peut en changer. Donc, dans quelle mesure la loi naturelle exprime-t-elle, oui ou non, des invariants? C'est tout le problème. On peut donner un autre exemple, qui est un exemple. La loi naturelle, si vous voulez, ce principe d'universalité. Quand on essaye aujourd'hui d'en donner une traduction contemporaine, et pas simplement le décalogue, et quand on regarde justement du côté des sciences humaines, des sciences sociales, de l'anthropologie, de la psychanalyse, de la philosophie contemporaine, la loi, ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la loi symbolique, c'est quoi la loi symbolique ultime? C'est-à-dire, en fait, l'interdit ultime, la définition ultime de la protection de la nature humaine. L'ultime. L'ultime, c'est l'interdit de l'inceste. Hein, le principe, probablement que le dernier principe, le dernier au sens du premier, hein, principe uni, réellement, peut-être le seul principe radicalement universalisable, c'est l'interdit de l'inceste. C'est-à-dire quand je cherche ce qui est valable dans toutes les cultures, quel que soit le contexte, quelle que soit l'histoire, l'interdit fondateur et à toujours respecter serait l'interdit de l'inceste. Ce n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Mais bon. Donc, quand on cherche voilà. Donc, l'idée de loi naturelle, si vous voulez, c'est ça, c'est cherche à exprimer la recherche d'universalité. Ce faisant, on découvre parfois que ce qu'on fait passer pour universel est en fait une des productions momentanées de la culture. Dans le magistère contemporain, c'est décliné comment? Bien, c'est décliné par une expression qui est une expression absolument clé que vous retrouvez dans tous les textes du magistère qui parlent expressément de morale ou pas, mais encore plus dans ceux qui parlent de morale, bien sûr, ça s'appelle comme ça, le respect du caractère je cite, hein, le respect du caractère sacré de la vie, du début naturel de la vie à la fin naturelle de la vie. Voilà l'expression contemporaine de la loi naturelle dans le magistère. Le respect du caractère sacré de la vie, autre nom, le respect de la dignité de la personne humaine, du début naturel jusqu'à la fin naturelle de la vie. Du début naturel, ça veut dire on ne touche pas, donc l'interdit de l'avortement, l'interdit du clonage, l'interdit des manipulations génétiques, l'interdit de... voilà. Et jusqu'à la fin naturelle, c'est l'interdit de l'euthanasie active, directe. Et à l'intérieur, si j'ose dire, de la vie, la loi naturelle veut qu'il est naturel pour un homme et une femme de se marier et de procréer. Il n'est pas naturel pour deux personnes de même sexe de se marier. Donc, vous voyez, ce principe de la nature et de la loi naturelle, un principe conducteur, un principe organisateur incontournable des 9/10 de la morale sexuelle familiale de l'Église catholique encore aujourd'hui. C'est un principe qui a été, je l'ai suggéré à l'instant, remis en cause massivement, y compris par les théologiens, à partir des années 60 du XXe siècle. Hein, parce que précisément, la révolution des sciences humaines, des sciences sociales, a semblé rendre caduque l'idée de loi naturelle, parce que beaucoup d'intellectuels et beaucoup pensaient que finalement tout n'était que culture et qu'il n'y avait plus rien de naturel. Mais comment dirais-je ? Alors, une autre des difficultés de l'idée de loi naturelle, c'est de faire, en réalité, quand les théologiens et en particulier le magistère parlent de loi naturelle, sous la rubrique loi naturelle, ils entendent en fait loi de la nature. La loi naturelle, finalement, ce sont les lois de la nature, les lois du vivant, les lois du bios. La loi du bios, ça veut dire qu'effectivement, un homme et une femme, quand ils s'unissent, peuvent procréer. Ça, c'est la loi du bios. Mais c'est valable pour les animaux aussi. En quoi sommes-nous, être personnes humaines différentes des animaux, s'il est naturel pour un homme et une femme, pour deux animaux de sexe différent, de procréer? Est-ce que la reproduction de l'espèce fait partie, épuise l'idée de loi naturelle? C'est la loi de la nature. Mais ce n'est pas forcément la loi de la culture. Parce que qu'est-ce qui fait que deux personnes humaines entrent en relation, s'apprécient, tombent amoureux, fondent un couple, etc.? Ce n'est pas seulement le fait de faire des enfants. C'est l'amour, hein, c'est la relation, c'est la découverte de l'autre, c'est échanger, c'est avoir un projet de vie, c'est construire un itinéraire de vie, fonder ensemble c'est avancer ensemble dans la vie, avoir un projet, n'est-ce pas, et pas seulement reproduire l'espèce. Donc ce qui fait qu'une personne humaine est une personne humaine et non pas un animal, c'est pas seulement la nature, c'est tout autant la culture. Et ce qui fait qu'une personne humaine est une personne humaine et pas un animal, c'est la parole. Nous sommes des êtres parlants. Nous sommes des animaux, certes, mais des animaux parlants. Alors que l'animal que l'on connaît communique, ils ont leur propre langage, ils ont leurs propres signaux, mais la parole est le propre de la personne humaine. Est-ce que c'est naturel? Le verbe s'est fait chair, hein. La parole s'est fait chair, c'est un don. Et le don de la parole, c'est ce qui fait la personne humaine devant Dieu, irréductible à toute nature. J'espère que vous suivez un peu mon raisonnement, hein, pour vous dire que je le ressouligne, que ce principe organisateur, vous faites le test, vous prenez les derniers textes, vous regardez, chez François c'est un peu plus discret, hein, mais chez Jean-Paul II et chez Benoît XVI, le principe organisateur de toute la morale conjugale, etc., c'est la loi naturelle. Je vous rappelle que jusqu'en 1931, l'encyclique Casti Conubi, donc de la chasteté du mariage, l'encyclique Casti Conubi définissait une seule finalité au mariage, procréer. Une seule. Donc les couples stériles, les couples d'une seule finalité au mariage, procréer. C'est Jean-Paul II. C'est seulement Jean-Paul II. Vous vous rendez compte, on a 2000 ans d'existence. C'est seulement Jean-Paul II qui a commencé à distinguer deux buts du mariage. Un homme et une femme s'unissent pour procréer, certes, mais tout simplement pour la relation. Aussi, le plaisir d'être ensemble, l'idée de fonder un projet commun, de construire quelque chose ensemble. Et ça s'est traduit, figurez-vous, seulement en 1983, dans le Code de droit canon. Dans le Code de droit canon 1983 reconnaît les deux finalités du mariage, la reproduction de l'espèce et la relation. L'amour, si vous voulez. 1983 quand même, hein, le droit de l'Église. Donc, ça veut dire que même Jean-Paul II s'est affranchi d'une conception de la loi naturelle qui est fondée uniquement sur la nature de la reproduction de l'espèce. Et il a privilégié, enfin il n'a pas privilégié, il a rééquilibré, hein, avec l'idée de relation. Pour la petite histoire, mais en France ça a été une grande histoire, ça je pense que je vais vous donner un petit scoop, parce que c'était un débat qu'on a eu entre théologiens au moment du mariage, la querelle du mariage pour tous, et puis après du synode sur la famille par le pape François, sur les questions d'homosexualité. Certains théologiens sont allés chercher les textes de Jean-Paul II en disant, mais attendez, mais après tout, Jean-Paul II a reconnu que la relation était une des finalités d'un couple. Et donc, certains théologiens ont dit au pape François, ben, à ce titre-là, on ne peut pas refuser une forme de relation de couple aux personnes homosexuelles. Ce n'était pas idiot. C'est-à-dire, certes, la finalité de la reproduction de l'espèce n'est pas possible, mais la relation est possible. Et donc, à ce titre-là, l'Église pourrait bénir des formes d'union. Alors là, on est parti dans des hypothèses qui n'ont pas, si j'ose dire, accouché du tout, des formes d'union homosexuelle, parce qu'il y a une relation. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva ? On a fait disparaître la théologie de Jean-Paul II. C'était très embêtant, et du coup, on est revenu avant la théologie de Jean-Paul II, et figurez-vous que maintenant, la fin exclusive du mariage, à nouveau, dans certains textes, c'est la reproduction de l'espèce. Et la vie de couple, on la met de côté. Parce que sinon, la vie de couple, à ce moment-là, il faut la reconnaître pour les personnes de sexe différent ou pour les personnes de même sexe. Mais comme ça faisait désordre, si j'ose dire, alors on est revenu à avant Jean-Paul II. Vous voyez, alors, je dis ça parce que moi, il me semble que le malentendu, une des sources du malentendu de nos contemporains, pour ne pas dire de certains chrétiens, pour ne pas dire de certains catholiques, avec la position dite officielle de l'Église, vient de ce focus exclusif ou quasi exclusif de la morale sexuelle sur l'idée de nature. Une idée de nature qui se fait souvent au détriment de la culture, une idée de nature qui est réduite au bios, c'est-à-dire aux lois biologiques, aux lois du vivant, au détriment de, je dirais, de l'humanité de l'homme, oui. Et pour achever ce tableau, il est incontestable hein, que les déclarations des droits de l'homme qu'on a connues, que ce soit en 89 ou en 1948, après la Seconde Guerre mondiale, ces déclarations-là, qui définissent le respect minimal qu'on doit à une personne et l'exercice des droits d'une personne dans une société libre, un monde libre, ces déclarations, celles de 48, sont une expression séculière de la loi naturelle. Je le dis d'autant plus que Jean-Paul II, quand Jean-Paul II est allé à Strasbourg, je crois que c'était en 1986, Jean-Paul II a dit hein, aux parlementaires que finalement, les droits de l'homme, ils s'y retrouvaient assez bien, parce qu'au fond, ils exprimaient de manière sécularisée l'Évangile. Hein c'est tout le courant des droits de l'homme dont je vous fais observer que ce courant des droits de l'homme qui a structuré les relations internationales, enfin en principe, hein, parce que, vous voyez, ce n'est pas toujours très réussi, hein, les dictatures, etc., enfin, qui a quand même essayé de structurer les relations internationales depuis la Seconde Guerre mondiale, ce courant des droits de l'homme est lui-même, pas battu en brèche, mais disons contesté parfois, et caricaturé sous la forme du droit de l'hommisme. Donc il est aussi très tendance maintenant chez certains intellectuels de critiquer un recours systématique aux droits de l'homme. Et pourtant il y a du boulot. Voyez les Ouïghours, voyez donc les Ukrainiens déportés à l'heure actuelle, pour ne braquer le projecteur que sur l'Europe et les pays de l'Est, si vous voulez, la Chine, voilà, mais les questions valent pour beaucoup de pays dans le monde, puisque il n'est vraiment pas naturel de respecter les droits de l'homme, hein, je suis désolé. Hein. C'est une conquête de la culture. Et la barbarie est au seuil de l'Europe, vous savez, violer les enfants, tuer les mères après les avoir torturés. Voilà, la nature. Donc, la loi naturelle, c'est une espèce de concept impossible. Mais c'est un concept dont on a besoin pour penser la tentative de l'universel. Effectivement, si on prend l'idée des droits de l'homme, où que je sois dans le monde, les droits de l'homme devraient être respectés parce qu'ils sont universels. Parce qu'un citoyen libre est un citoyen libre en Chine, en Russie, et on s'aperçoit qu'à Paris, c'est différent, alors que ça devrait être la même chose. La censure devrait être interdite partout. Eh bien oui, mais elle n'est pas interdite partout. Et pourtant, les droits... Vous voyez, c'est cette recherche de l'universel. On en a tous besoin, mais ça se heurte, d'une certaine manière, ça se cogne au réel. Hein, parce que l'homme est un loup pour l'homme, et parce qu'il y a des formes de cruauté ordinaire et extraordinaire, dont on peut se dire que, comme dit l'Écriture, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et si je vous ai parlé de la loi naturelle, c'est aussi pour vous dire ce que j'ai déjà suggéré la dernière fois, c'est que beaucoup d'observateurs ont fait remarquer, y compris dans l'Église, des théologiens, je ne sais pas si j'ai utilisé avec vous cette expression, si c'est le groupe de l'après-midi, hein, que la morale catholique évoluait à deux vitesses, une morale à double vitesse. Il y a une première vitesse, qui est une vitesse très lente, qui est la vitesse de la morale conjugale et sexuelle. Et c'est très lent parce que C'est la loi naturelle qui structure la chose. Il y a une autre vitesse beaucoup plus rapide qui est la morale sociale et économique. On pourrait dire maintenant, d'une certaine manière, l'écologie. Parce que sur les questions sociales, économiques, écologiques, l'Église s'autorise à aller beaucoup plus vite. Et on dit souvent d'ailleurs de l'Église hein, que l'Église peut être tout à fait audacieuse et prophétique sur les questions d'économie, de société et d'écologie. Le magistère, enfin l'Église, a été une des premières grandes institutions du monde à attirer l'attention de la planète sur la destruction de ce qu'on appelait encore à l'époque l'environnement. L'Église parlant de la sauvegarde de la création. Dès le pape Paul VI, hein, c'est les premiers textes sur l'écologie, c'est Paul VI. Ce qui d'ailleurs, entre nous, vous voyez, est une autre conception de la nature. Pas la même. Donc voilà, on a souvent remarqué, à mon avis à juste titre, la vitesse où l'Église reste parfois bloquée à la première, si vous voulez, première vitesse, où ça bouge pas trop, ça avance très lentement. Vous voyez, confère le synode à Maurice Laetitia, qui a soulevé beaucoup de promesses, et puis qui a accouché peut-être pas d'une souris, mais quelques mesures concrètes un peu nouvelles, si vous voulez. Et au contraire, la morale économique, la morale sociale, la morale, voilà, c'est Laudato si. Laudato si, c'est un des premiers grands textes du monde à prêcher officiellement la décroissance. La décroissance, quand même. Hein. Enfin, c'est très innovant. Donc d'un côté, vous avez humanae vitae, etc., avec la morale naturelle sexuelle, et de l'autre, vous avez Laudato si, où le pape vous dit, mais pour sauver le monde, il faut accepter le modèle de la décroissance. Et on dit, le pape est de gauche, voire d'extrême gauche, et Mélenchon a envie d'aller à Rome. Voilà. Donc, c'est sûr que cette morale à deux vitesses a souvent été remarquée, et je crois que c'est assez juste. Hein. Et il me semble que ce qui explique ça, c'est une certaine conception, non pas de la France, comme aurait dit De Gaulle, mais une certaine conception de... C'est ça qu'il faudrait retravailler, hein. C'est le lien entre nature et culture. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été assez clair?
Oui, j'ai une petite question.
Je vous en prie.
Pourquoi est-ce que la morale dite naturelle est lente, etc., et est-ce que c'est en lien avec le fait qu'elle est entre les mains de mâles célibataires?
Vous y allez fort.
Oui, c'est exprès, c'est de la provocation.
Oui, oui. Oui. Je pense oui. Alors, si vous voulez, on ne va pas réécrire le film.
Non.
Mais comment dire ça? Je réfléchis pour faire une réponse à peu près intelligente, donc ça me demande du temps, pardonnez-moi. Je crois que fondamentalement, je crois que les deux sexes, hommes et femmes, on dit qu'il y a un problème, si vous voulez, avec... c'est banal et c'est vrai, avec le machisme, l'hétérodomination masculine, ce qui est vrai, je crois que c'est vrai dans l'Église aussi, et je crois que ça n'a pas aidé à la promotion de la femme dans l'Église. Bon. Et que l'Église catholique s'en remet à peine. Hein. Mais pire que ça, et ça, ce n'est pas propre à l'Église, les deux sexes, hommes et femmes, ont un problème avec le féminin. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus problématique, c'est le cas de le dire. Le pitch, comme on dit maintenant, Non seulement c'est la question de la femme. Lacan, d'ailleurs, disait ce sujet, Lacan, hein, qui n'est pas un père de l'Église, la femme n'existe pas. Hein, ce qu'il voulait dire, c'est que la femme, comme ça, avec un grand L et un grand F, n'existe pas. Mais le problème, c'est le féminin. Et parce que le féminin, on n'arrive pas à le penser. Mais ça, c'est une réflexion comme ça, un peu latérale, mais oui, je pense que l'Église, mais pas seulement l'Église, les grandes institutions, à commencer par la famille, et pas seulement la famille catholique, la famille, et pas seulement en Occident, a un problème avec l'hétérosexualité dominante, l'hétéronormativité dominante. Et en disant ça, je pense absolument pas faire un couplet, si vous voulez, de l'homme blanc déconstruit qui a lu Michel Foucault. Hein. Je pense que ce n'est pas du tout mon objet, ni mon sujet d'ailleurs. Hein. C'est pas du tout pour moi une question d'idéologie. C'est presque factuel. Au regard de l'histoire, ça me semble à peu près évident. Et en disant ça, je ne crois pas du tout, encore une fois, jouer mon mâle blanc déconstruit. Pas du tout. Je pense que c'est... Et si vous voulez, c'est quelque chose qui a été là aussi un principe. Ben, vous savez, il est de la nature de l'homme d'être supérieur à la femme, hein, quand même. C'est-à-dire que c'est quand même ça, si vous voulez, qui a vaguement et plus que vaguement organisé les choses. Hein. Et quand je dis organiser les choses, y compris peut-être jusqu'à quel point, c'est là qu'il faut la regarder de près, mais ça, le magistère a du mal, c'est de regarder à quel point ça, par exemple, ça structure le sacrement de l'ordre qui est réservé aux hommes. C'est un vrai débat anthropologique, mais au sens alors vraiment puissant de ce qu'on appelle, c'est une discipline à part entière, hein, l'anthropologie. Or, le problème de l'Église, même quand elle fait de l'anthropologie, c'est qu'elle cherche des anthropologies compatibles. Compatible avec un modèle préexistant. Et c'est ça qui biaise les choses. Et ça biaise les choses, par exemple, sur la question de l'ordination des chrétiennes, qui est une question qui est normalement close, hein, par Jean-Paul II, mais qui revient pourtant, vous allez voir, hein, les conclusions du synode. Moi, je suis très impressionné de voir que le synode sur la synodalité, ne serait-ce qu'à Paris, une des propositions importantes, ce sera l'ordination des femmes. Mais je sais pas où on va. Enfin, voilà, je pense que ça ne va pas aller très loin. Parce que le texte du magistère est formel. Jean-Paul II a dit non. Et puis, du coup, Benoît XVI après a dit non parce que Jean-Paul II avait dit non. Et François a dit non parce que Benoît XVI a dit non et que Jean-Paul II a dit non. Mais pour dire non, quelle anthropologie ont-ils utilisé? À mon avis, une anthropologie compatible avec le modèle qui était en fait prédéfini.
Oui, mais on ne peut plus parler de loi naturelle à ce moment-là.
Voilà, c'est tout l'enjeu, si vous voulez, c'est tout le problème. C'est pour ça que je dis que c'est un concept en forme de ligne de mire ou d'horizon, mais c'est un concept impossible. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce concept qui avait été mis en miettes après Vatican II, a fait retour sous Benoît XVI, enfin sous Jean-Paul II déjà, et encore plus sous Benoît XVI. Pourquoi? Parce que dans un monde mondialisé, d'accord, anxiogène, où toutes les traditions se valent, où toutes les valeurs se valent, l'idée de nature, c'est-à-dire la recherche des invariants, vous savez, ce qui ne bouge jamais, est redevenue à la mode. Vous voyez? Et aujourd'hui, on retrouve ça dans nos sociétés européennes, y compris françaises, hein, avec la quête autour des identités. Maintenant, il faut absolument avoir une, voire plusieurs identités. C'est-à-dire que, parce que ça permet de se poser, de se définir. Ça permet même de se contre-définir, contre l'individu ou la communauté autre. Hein. Le communautarisme est une expression de... inquiétante, si vous voulez, de cette recherche d'identité vécue en groupe. Alors que vous sentez bien que dans les années 70, par exemple, c'était le enfin, tout n'était que culture. Hein, c'était les années Woodstock, si vous voulez. Hein. Eh bien, Woodstock a cédé la place à, je ne sais pas ce qu'il faut dire, moi, au JMJ de 1997. Les JMJ de 1997, c'était un Woodstock de la foi, mais le Woodstock de la foi a coïncidé avec « France, qu'as-tu fait de ton baptême ?» Et donc, le retour de la nature intangible, ce qu'on ne change pas. Ça avait trop changé, si vous voulez. Mais 68 a trop changé les affaires. Eh bien, on fait maintenant une critique. Il est bien séant maintenant de faire une critique de mai 68 et de dire que cette génération s'est égarée et qu'il faut revenir maintenant. Et les jeunes le disent. Les jeunes se mettent en contrepoint par rapport à la révolution de nos générations ou de mes parents en disant « vous avez tout laissé filer ». Maintenant, il nous faut des valeurs, des identités. Les jeunes en redemandent de la loi naturelle parce que ça les rassure.
Voilà.
Certains. Et parce que ça les rassure, vous comprenez, on leur redonne ce qui ne va pas varier. Ça ne variera pas, ça ne bougera pas. Qu'est-ce que c'est rassurant ? Oui, Hervé ?
Cette histoire de loi naturelle, ça ne tient pas la route quand même parce que Qu'on dise c'est la procréation, la fin première, ok, c'est naturel, il n'y a aucun doute. Mais la monogamie ou la polygamie, alors c'est une construction religieuse et culturelle pour transcender l'homme
oui,
par rapport à l'animal, mais c'est une construction.
Mais c'est, tu peux.
Et toutes les constructions.
Mais monogamie, ah ben alors, toutes les constructions, c'est justement l'épisode de la prochaine fois, ce que je vous donnerai sur la construction. Hein. Mais avant de passer à cet épisode, oui, mais tu parles, tu dis monogamie, polygamie, oui, mais même pas besoin d'aller chercher aussi loin. Le célibataire dans l'Église qui n'a pas envie de se marier, par exemple, hein, typiquement le célibataire trentenaire qui ne se marie pas, mais qui n'a pas non plus envie d'entrer au séminaire pour devenir prêtre, par exemple, il a quel statut dans l'Église? Et pourtant, il est baptisé, il fréquente les sacrements.
Laïc consacré.
Oui, c'est possible, mais ça n'a rien d'obligatoire.
Non.
Hein, c'est, et si on prend le baptisé célibataire, j'allais dire qu'il n'y a pas... qui n'est même pas laïque consacré, si vous me passez l'expression. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi sa vocation? Je peux vous dire que l'Église a du mal à penser sa vocation. Mmh. Et je parlais tout à l'heure, le veuvage, les couples stériles. Il faut arriver, voyez, il faut arriver à mon avis, à penser ces vocations-là en termes de projet et la capacité de se projeter dans la vie. Voilà, par exemple. Mais le discours, en effet, exclusif, organisé autour de la loi naturelle, est un discours un peu monochrome, hein, pour ne pas dire franchement monothématique, voire monomaniaque. Hein, ça reste quand même, vous savez. Alors, on a beaucoup noté que dans la dernière encyclique du pape, non pas l'encyclique, l'exhortation sur Amoris Laetitia, à la suite du synode sur la famille, le pape cite très peu la loi naturelle.
Ça ne pourra pas résister.
Moi, je pense, mais nul n'est prophète en son pays, je pense que ça ne résistera pas. Lui, il le cite très, très peu. D'ailleurs, certains ne se sont pas privés de dire que le pape le citait très peu. Mais voilà, il y a quand même, moi j'étais surpris de voir à partir des années 2000, le retour de la loi naturelle dans les textes des théologiens et du magistère. Alors que, en gros, on s'en servait quasiment plus. Mais on nous a fait à nouveau réfléchir sur l'idée de loi naturelle, sauf depuis le pontificat de François. Je crois pouvoir dire que l'idée de loi naturelle ne le fascine pas. Mais Benoît XVI, c'était encore, pour Benoît XVI, un principe très, très structurant. Tous les textes qui sont sortis sous Benoît XVI, les textes de morale, de loin ou de près, parler à nouveau de la loi naturelle.
La nature est bonne fille, on peut lui faire dire ce qu'on veut, non ?
Oui, mais c'est la raison pour laquelle je parlais de concept impossible. Aller trouver dans la nature, aller trouver dans la nature, tel qu'on appelle la nature, un carré ou un rond, ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas une pierre exactement ronde ou exactement carrée. C'est une construction, c'est culturel. Par exemple, la nature, si on l'assimile uniquement au bios, la nature est extrêmement violente. Il faut la domestiquer. Les enfants dont on nous dit qu'ils sont gentils entre eux et qu'ils sont merveilleux parce qu'ils sont innocents, et c'est la nature de l'enfance d'être gentille, tendre et affectueuse avec ses parents. Mais que disait saint Augustin ? Qu'est-ce que font deux enfants quand vous les mettez ensemble ? Qu'est-ce qu'ils commencent à faire ? Ils se battent. Ils font la guerre. C'est naturel, ça, ou c'est culturel ? Donc, oui, l'idée de nature, elle a bon dos, j'allais dire. Enfin, oui, c'est ça. Si vous voulez, pour conclure, on ne peut pas vraiment s'en passer, mais on ne peut pas non plus en faire une idole. Et on a tendance à en faire un concept un peu idolâtré dans la théologie morale catholique sur les questions de famille, essentiellement. Voilà.
Moi je voulais simplement revenir sur quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure de la domination de l'homme sur la femme, mais au niveau de la famille, il y a quand même eu une amélioration considérable, puisque maintenant on ne parle plus d'autorité paternelle, mais d'autorité parentale. Veut dire que même dans le cas d'un divorce, quand les gens sont séparés, ils sont tenus à donner leur avis par rapport à l'avenir et aux décisions qu'ils prennent pour leurs enfants.
Mais c'est civil.
C'est vrai, mais c'est vrai surtout dans le droit civil. La notion justement d'autorité parentale a été extrêmement contestée, y compris par des religieux, y compris par des catholiques, hein. Parce que l'autorité donnée aux deux parents, la suppression, c'est le débat qu'on a suivi il y a quelque temps, hein, de père ou mère, etc., et mettre parent numéro un, mettre parent numéro deux, ça représente un progrès pour la société puisqu'elle le décide, et encore, les tendances sont très variées dans la société à ce sujet, ça ne représente certainement pas un progrès dans la théologie catholique, si vous voulez, ils sont la théologie catholique ne va pas pouvoir séparer l'idée d'un... C'est très difficile dans la théologie catholique de vous dire qu'il va y avoir deux parents, mais même deux papas ou deux mamans, hein, parce que ce sont des concepts auxquels nous, comme citoyens, je ne me situe pas sur... On commence à être habitués, mais ce sont des concepts ou des réalités qui sont inconnus dans la tradition chrétienne que nous héritons. Donc, on marche sur des œufs, mais sur un territoire inconnu, si vous voulez. Et je constate aussi que dans la société, on est également sur un territoire un peu inconnu, parce que ça n'a pas plu à tout le monde, et pas seulement aux catholiques, de mettre parent 1, parent 2. Hein? Pour d'autres, au contraire, c'est vrai, ça représente un progrès, hein, dans la parité, l'égalité, etc. Mais, et je terminerai vraiment là-dessus, figurez-vous qu'il y a quelques années, vous savez, à la conférence épiscopale des évêques, il y a ce qu'on appelle un conseil pour la famille. Ça s'appelle comme ça, conseil ou comité, je ne sais plus, parce qu'il y a des conseils et des comités, pour la famille. Et alors, compte tenu de ce que vous dites, monsieur, à savoir des progrès dans la compréhension des familles contemporaines, ben voilà, je l'ai dit, la compréhension des familles contemporaines, certains à la CEF ont dit on pourrait peut-être au moins, au lieu de parler de la famille dans nos appellations officielles, parler des familles. Parce que les familles contemporaines sont plurielles. Ça a été refusé. Refusé. C'est-à-dire l'idée même de parler des familles, moi je me souviens d'une discussion avec un archevêque qui est à la retraite maintenant, qui était président du conseil épiscopal sur la famille, et qui prêchait beaucoup pour qu'on écrive les familles, simplement pour être plus en consonance avec la société telle qu'elle est, eh bien, c'est jamais devenu les familles.
C'est Dagens.
C'est voilà, c'est comment?
C'est d'Agas, non?
Non, non, ce n'était pas d'Agen. Il aurait pu, mais ce n'était pas lui. Eh bien, ils ont refusé les familles, ils ont préféré garder la famille. Vous voyez, donc, ils sont loin encore de l'autorité et surtout de la parentalité. Parce que qui dit autorité parentale dit parentalité, ce qui, tout simplement, pour la plupart des institutionnels, on va dire, représente un néologisme. Voilà, donc on en est là. Mais c'est bien que vous posiez cette question parce que c'est justement ça que je voulais reprendre pour la prochaine fois, dans l'avant-dernière heure. Et je vous rappelle que la seconde heure, on fait question ouverte. Donc vous préparez un peu ce que vous avez envie qu'on échange ensemble, hein, en termes de questions, d'actualité ou à partir de cours. On ne fait pas des recettes de cuisine, je vous rappelle qu'il s'agit de l'éthique ou de morale, donc préparer des questions sur l'éthique et la morale qui pourraient profiter au groupe. Hein. On sera peut-être un peu plus nombreux, on verra bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et donc, à la prochaine fois.